Vous écoutez France Culture.
Place de la Toile, le magazine hebdomadaire des cultures numériques, des nouvelles technologies, de leurs usages. Aujourd'hui, Internet, logique et finance avec Giuseppe Longo. Bonjour à toutes et à tous. Bonjour Giuseppe Longo.
Bonjour Monsieur Delaparte.
Vous êtes logicien et épistémologue, vous êtes directeur de recherche au CNRS, en poste à l'École normale supérieure de la rue d'Ulm, au département informatique. Je vous ai contacté il y a quelques semaines en vous disant que je voulais faire une émission autour d'Internet et des mathématiques, ce qu'Internet pose comme question, comme problème aux mathématiques. Votre double qualité de logicien et d'épistémologue et vos nombreux travaux sur l'informatique faisant de vous la ressource parfaite pour ce type de questions. Vous m'avez dit oui, c'est intéressant, mais au fur et à mesure de nos échanges, une autre question est apparue, celle de la finance, en tant que les échanges qui la caractérisent et les formes qu'ils prennent aujourd'hui ont été profondément modifiés à la fois par les mathématiques et les réseaux. C'est donc de tout cela dont nous allons parler ce matin avec vous, Giuseppe Longo, comment l'informatique naît de questions théoriques mathématiques, comment les réseaux posent de nouvelles questions mathématiques, et puis enfin comment la finance est un lieu profondément modifié par l'alliance des mathématiques avec les réseaux, avec les conséquences qu'on peut observer chaque jour en ouvrant les journaux et la radio. C'est donc un programme ambitieux que nous avons ce matin et que l'on va ouvrir dès maintenant en revenant un petit peu en arrière et en faisant encore une fois appel à votre double qualité de logicien et d'épistémologue. Qu'est-ce qui, dans l'histoire de la connaissance, relie l'informatique et les mathématiques, Giuseppe Longo ?
Je voudrais tout d'abord souligner le rôle énorme qu'ont eu des questions de fondement des mathématiques dans la naissance de la théorie de la calculabilité et après de la machine digitale. Et disons, il y a évidemment tout un tas de passages, mais le vrai début de ce qui est la mathématisation de la notion du calculable est dû à Rembrandt, à l'ENS, hein, en 1930, et puis Gödel, 31. Et ce qui était intéressant, peut-être les gens ne savent pas, que la naissance de quelques concepts fondamentaux, c'est-à-dire celle de fonctions calculables, de problèmes décidables, effectivement, de façon donc potentiellement mécanisable, hein, et née en réponse à un problème de fondement des mathématiques dû à un grand mathématicien allemand, Hilbert, ceci depuis 1900, surtout les années 20, qui pose la question si on peut tout formaliser, hein, c'est-à-dire réécrire les mathématiques comme suite des signes gérés par des règles qui ne sont qu'un remplacement, des règles de remplacement de suite des signes par des suites des signes. Ceci pour atteindre la certitude d'une rigueur formelle parfaite dans le cadre d'une axiomatisation des mathématiques. Et c'est l'idée d'Hilbert qu'on aurait dû pouvoir décider tout problème mathématique bien posé. Gödel, pour répondre à cette question fondationnelle, entièrement logique, et invente une notion très rigoureuse, celle qui sera parfaitement stable, de calculabilité, évidemment sur des bases d'idées qui existaient déjà, et aussi une autre idée absolument centrale, qui s'appellera la gödelisation, c'est-à-dire l'idée qu'on peut coder n'importe quelle suite finie de signes.
Qu'est-ce que ça signifie, ça, qu'on peut coder
n'importe quelle suite finie de signes ? On associe à des lettres, A, B, C, D, à l'alphabet dans le langage formel, donc bien défini du point de vue de sa structure syntactique, on associe des nombres. Hein, on dit A, c'est 1, B, c'est 2, c'est 3, mais on le fait de façon que quand on a une suite finie, suite en propriété des nombres premiers, d'avoir des décompositions uniques des nombres, chaque fois qu'on a un nombre, on reconstruit une même suite, un même mot, chaque fois qu'on a un mot, on construit un seul nombre. Et ceci est exactement ce qui se passe chez nos ordinateurs, évidemment avec des technologies d'autres types par rapport à la technique mathématique inventée par Gödel, mais l'idée fondamentale, c'est qu'on transforme n'importe quelle écriture formelle, alphabétique, hein, on le transforme en une suite de nombres.
Mais Giuseppe Longo, quand il fait ça, Gödel, il ne pense absolument pas à une application.
Ah non, non, non. C'est une invention mathématique dans un cadre d'un questionnement fondationnel. Ce qu'il va faire, c'est de coder par cela la métathéorie de l'arithmétique dans la théorie de l'arithmétique elle-même. Donc, c'est un tournant qui lui permet d'écrire formellement et en fait décoder par des nombres n'importe quelle affirmation logique sur une théorie mathématique. Celui lui permet de démontrer qu'il existe des résultats indécidables.
Donc, qu'est-ce que c'est un résultat indécidable?
C'est-à-dire tel que, si on prend un système axiomatique assez puissant, on peut trouver des énoncés du langage de ces systèmes axiomatiques qui ne sont pas décidables par les axiomes. C'est-à-dire qu'on ne peut pas le démontrer, ni lui, ni sa négation.
Hein. D'accord. Donc,
qui échappe à cette ambition qui était celle d'une axiomatique complète, telle qui était proposée par le très fort, très intéressant programme d'Hilbert. C'est un non radical à toute une vision de la déduction et en fait des protocoles de la pensée, comme disait Hilbert. Pas seulement de la pensée mathématique, de la déduction mathématique. C'est un tournant où Gödel, pour dire qu'il y a de l'indécidable dans les théories formelles, est contraint à dire avec rigueur qu'est-ce que c'est décidable, oui, qu'est-ce que c'est calculable, et comment on peut coder. Et ce codage, j'insiste, c'est exactement ce qui se passe quand vous avez une phrase sur votre écran, écrite par des lettres alphabétiques, elle est codée à la Gödel par des 0-1 dans la base
des données. Par une succession de 0-1. Hein,
voilà, et ça a été inventé en 31. Hein, donc, vous en comprenez l'importance. Et ceci, encore une fois, pour trouver des énoncés indécidables. Donc, pour dire un non. Mais ça arrive souvent en science. Ce sont des résultats négatifs qui sont une fracture épistémologique qui ouvre de nouveaux horizons. L'histoire continue, il y aura d'autres mathématiciens qui travaillent à ces systèmes formels, ouais. Church, Kleene, etc. Et puis Turing, hein, l'autre grande personnalité de l'invention de la machine à état discret, et qu'il appelle au début « logic computing machine », c'est la machine logique pour calculer, c'est l'homme dans l'acte minimal de la pensée. L'idée nouvelle centrale, une extension d'abord de la méthode de Gödel de codage, l'idée centrale, c'est le départage entre logiciel et matériel.
Alors, c'est-à-dire ?
C'est-à-dire, il invente la notion de programme en tant que tout à fait indépendante de sa réalisation physique, matérielle, concrète. Hein. Il y avait déjà des idées préliminaires dans ce sens. C'est avec Turing que ça devient une mathématique rigoureuse, qui lui permet de dire, je peux construire une machine, qui s'appellera machine de Turing, universelle, dans le sens qu'elle prend le programme comme argument d'une un programme quelconque, un nombre, et applique ce programme à ce nombre. Ceci, c'est des maths, hein, c'est entièrement des maths. Mais ça sera la base qui, après, deviendra les systèmes d'exploitation, les compilateurs. Donc, ce sont des idées entièrement logiques. Lui, il répond à la question de l'indécidabilité par son propre problème indécidable. Son article est un article sous le nombre réel calculable, encore une fois, sur ce programme d'Hilbert, c'est de la logique mathématique, hein.
Et purement théorique.
Purement théorique. En 35-36, c'est la machine logique. Ces gens-là ne pensent pas du tout aux applications.
Et c'est qu'ils ne pensent même pas à la construire physiquement, machine.
Non, ça viendra après. Ouais. Pendant la guerre, Turing est impliqué dans des questions de codage, décodage. Il donnera un apport très important au décodage
des messages chiffrés allemands.
Ouais. Mais utilisant des machines traditionnelles. Donc, il fait certainement un travail important, mais pas ce qui correspond à son invention mathématique. C'est seulement après la guerre, avec von Neumann, qu'il va réaliser son idée. Ça, évidemment, pendant la guerre, il est stimulé, il comprend les côtés possibles des applications. Et lui, avec un autre logicien, mathématicien, von Neumann, un autre grand bonhomme, il réalise les premiers ordinateurs, on est 46, 48, 50, et qui sont basés sur cette idée fondamentale d'avoir une théorie de la programmation et une pratique de la programmation qui ne dépend pas du matériel, hein, donc tout à fait général. Évidemment, au début, ils avaient une électronique tout à fait traditionnelle, donc des machines énormes avec lesquelles on fait très peu. Après, l'apport de la physique sera énorme, hein, puisque maintenant...
En quoi l'apport de la physique est énorme?
Ben, puisque avec la physique quantique, on arrive à avoir cette croissance incroyable qui continue de la mémoire, qui change tout. Hein, c'est-à-dire, ça permet à la machine de faire des choses qualitativement différentes par une différence quantitative. Tous les 18 mois, la mémoire double, évidemment, le style de programmation, la puissance, l'expressivité concrète... Même si l'expressivité théorique de la machine isolée reste toujours celle définie mathématiquement par Turing et Gödel, la puissance pratique change tous les 18 mois, elle double.
Hein. Ouais.
Et la physique quantique était importante. Si on pense par exemple que Albert Fert, qui a eu le prix Nobel en France en 2007, et les doigts à des travaux sur la magnétisation des différentes couches de métaux, qui des travaux qui ont 25-30 ans et qui ont eu un impact énorme dans la réalisation des machines que nous avons maintenant sous nos yeux. Donc ça c'est ajouté. Mais disons, le début, hein, les mathématiques ont précédé et ont été, encore une fois, basées sur un questionnement fondationnel. Et ce qui est intéressant, j'insiste, c'est des résultats négatifs, des gens qui ont dit non à un grand projet de fondement des mathématiques.
Mais est-ce qu'aujourd'hui, ça continue, ce rapport-là ? Est-ce que le lien entre une recherche théorique mathématique et la machine, ça continue ? Ou alors est-ce que, comme vous le disiez tout à l'heure, bon, après tout, la machine aujourd'hui qu'on a est fondée, c'est construite à partir de problèmes théoriques, la physique a pris le relais, mais qu'au fond, il y a une sorte de dissociation ?
Non. Il y a encore énormément de mathématiques à faire. Tout d'abord, même sur la machine, disons, traditionnelle, il y a une théorie de la calculabilité qui s'est beaucoup développée, avec énormément de résultats, par exemple, d'indécidabilité nouveaux. Mon cours à l'ENS est dans le site Savoir en multimédia, où je reprends quelques-uns de ces thèmes. Mais surtout, il y a un domaine qui est justement né grâce au réseau, un domaine de type mathématique. C'est-à-dire, quand ça a commencé dans les années 70, hein, et on a commencé à mettre les ordinateurs en réseau, se sont posés des problèmes nouveaux. De quel genre ? Il y a un problème des différents ordinateurs qui peuvent accéder à la même base de données. Comment organiser ? Comment ne pas faire la pagaille, par exemple, dans les réservations d'avions ? C'était une des toutes premières applications. Ainsi que dans les banques. Mais les réseaux ont vraiment explosé plutôt la fin des années 70, début des années 80, grâce à un grand engagement financier.
Des militaires
américains, le projet DARPA, qui voulait faire un réseau de communication sûr, et surtout qu'en cas de perte d'un nœud, continue à marcher. Donc il faut avoir des nœuds intelligents qui savent rediriger l'information, et ça se fait par le digital, puisqu'on arrive, on a des trains de digits qui arrivent, on peut les diriger, on peut les manier avec de l'élaboration fine, de façon très différente ce que peut faire un nœud a priori analogique. Et l'investissement des militaires américains est très, très important. Évidemment, ça, je voudrais dire que les gens qui disent « Ah, regardez l'importance de la recherche militaire », bon Dieu, on donne de l'argent aux militaires, puis on fait des choses. Si on pense qu'aux États-Unis, dans les années 50, les autoroutes ont été justifiées pour transporter les militaires d'un côté à l'autre en cas d'urgence défense, ça ne veut pas dire que la chasse militaire est importante. Non, ça veut dire qu'on choisit de financer à travers les militaires des choses qui, après, ont un impact énorme sur la vie.
Vous n'êtes pas le premier à dissiper ce malentendu sur la création d'Internet qui serait une pure invention des militaires américains.
C'est sûr. L'argent, c'est parti de là, mais c'était un choix politique. Mais personnellement, j'ai eu la chance de voir les premières applications des emails, hein, puisque j'étais en 81 à l'MIT. Et je venais de Berkeley, où j'avais passé une période, et il y avait les toutes premières communications entre les grandes universités américaines. Mmh. Donc, on s'échangeait des messages avec des adresses pas possibles. C'était des longues chiffres. Évidemment, on n'avait pas encore optimisé ce qui est devenu après une pratique courante. Mais ce qui compte dans le réseau qui démarre, sans doute, à cette époque-là, et avec une croissance que je vais essayer de mentionner, c'est qu'il faut penser qu'il ne s'agit pas seulement d'une toile, celle à laquelle on accède avec Google, typiquement. C'est une toile de toiles. C'est-à-dire, il y a plusieurs réseaux. Tout d'abord, il faut comprendre dans cela aussi les réseaux téléphoniques digitales, puisqu'ils s'entremêlent. Vous pouvez suivre n'importe qui, avec son accord peut-être pas, parfois, sur le web, hein, quand il se déplace avec son petit téléphone, et avoir des échanges entre les deux réseaux. Les réseaux des banques, les réseaux de la finance, qui sont autonomes d'une part, et communiquent avec la toile que nous connaissons tous. Donc c'est une toile des toiles, c'est ça la puissance du système qui est né. Les problèmes que cela pose, je disais tout à l'heure, sont énormes.
Oui, c'est ça. L'accès... Alors quel problème mathématique ça pose
Je disais tout à l'heure, le problème de l'accès simultané à la même base des données.
Pourquoi c'est un problème ça ?
Il faut régler par des sémaphores. Il ne faut pas que tout d'un coup, on puisse réserver la même place. Il y a des différences des nanosecondes. Comment gérer ceci ? Il y a le problème de la concurrence. Ça veut dire que des ordinateurs différents, même et très lointains dans le monde, peuvent concourir, peuvent travailler au même processus en s'échangeant, s'échangeant de l'information. Ouais. Ça change la théorie nécessaire de la calculabilité, du calcul, puisqu'il y a des problèmes de retard, de gestion de l'information qui sont radicalement nouveaux. Il y a même beaucoup de géométrie qui fait cela, puisqu'évidemment...
Pourquoi de la géométrie ?
Puisque ce sont des problèmes de l'espace-temps. Vous voyez, dans la machine de Turing, tout ça, il n'y a absolument pas de géométrie.
Ça ouais, c'est de la pure arithmétique.
Oui, c'est de la pure arithmétique, tout à fait. Tandis que maintenant, il y a l'espace-temps physique qui entre dans les mathématiques des réseaux de façon massive. Il y a même des choses très fines, hein, de la théorie de l'homotopie qui se présente. Ben, tiens,
qu'est-ce que c'est la théorie de l'homotopie?
Ben, c'est une théorie des formations des parcours. Des parcours, le parcours dans ce cas de l'information. Il y aura un exposé sur ça et sera sur le, encore une fois sur le savoir multimédia mardi prochain à ces sujets à l'école. Et ce sont des choses très techniques, évidemment. Une mathématique nouvelle, c'est-à-dire il y a encore des problèmes logiques, la théorie des types et tout ça. Il y a vraiment des défis mathématiques extrêmement intéressants.
Et ça, excusez-moi, mais ça veut dire que c'était des problèmes qui étaient pas, qui ne se posaient pas avant la mise en réseau des ordinateurs ou qui ne se formulaient pas de la même manière aux mathématiciens avant, vraiment.
Non, ne s'est posé pas.
Pas du tout.
Non, ça n'existait pas. Non, c'est clairement des problèmes reliés à ces phénomènes de concurrence, des processus, des calculs discrets. Mais dans un espace-temps continu. Hein, c'est ça la nouveauté qui s'est ajoutée grâce au réseau. Et le travail sur cela est absolument remarquable.
Et beaucoup, excusez-moi, beaucoup de gens travaillent là-dessus?
Je ne saurais pas le quantifier, mais certainement, l'informatique mathématique dans le monde est très fortement concernée. C'est un problème de recherche théorique, mais avec des conséquences appliquées absolument remarquables.
Et est-ce que du coup, ça peut fournir des solutions, ou disons, à de la recherche purement théorique? Oui. Ça reste pas, oui, ça informe la recherche purement théorique.
Ah ben non, les retombées sont évidentes, c'est-à-dire la gestion de cette énorme masse d'informations, par exemple les analyses de l'aléatoire du réseau et de queue, etc., qui sont des enjeux mathématiques remarquables. Nous sommes face dans une nouvelle forme d'aléatoire. Hein. La physique déjà nous donne deux types d'aléatoires, l'aléatoire classique qui est du déterminisme imprédictible, l'aléatoire quantique, qui a l'indétermination intrinsèque, et on peut en faire une différence d'un point de vue mathématique. Il y a des théorèmes qui disent théorème d'égalité de Bell, etc. L'aléatoire des réseaux, c'est un vrai défi, puisque tout se mélange. Il y a tous ces phénomènes en même temps. Par exemple, si vous prenez le Skype, vous regardez si le nombre de gens liés est pair ou impair, peut-être c'est fiable, je ne sais pas, en tout cas, ça vient du réseau. Et 0-1, si c'est pair ou impair, ça, c'est vraiment de l'aléatoire. Hein. Mais quel type? C'est pas vraiment le même type d'aléatoire qu'on a, et ils sont déjà deux en physique, puisqu'il y a l'intervention humaine, il y a les interactions des réseaux, il y a le problème de la vitesse de la lumière, c'est le ralentissement dans les relais, etc.
Donc une nouvelle forme d'aléatoire avec les réseaux, c'est intéressant ça.
Oui, absolument, justement, puisqu'il y a tout qui se superpose, l'activité humaine, les aspects physiques, etc., même quantique, hein, ça peut y avoir des effets quantiques. Mais ceci dit, il n'y a pas que ces nouveautés scientifiques et mathématiques. Je dirais il y a une nouveauté épistémologique, c'est-à-dire nous avons une nouvelle forme d'écriture, l'écriture en réseau, qui a deux aspects. Un, celui de la connaissance et la mémoire de l'humanité, qui est potentiellement mise à disposition de l'humanité. C'est une chose absolument incroyable.
Ouais, évidemment, épistémologiquement, c'est fascinant.
Hein. Radical. Et de l'autre part, et j'en parlerai, c'est l'écriture monétaire.
Hein, ça, on en parlera.
Mais du point de vue de l'activité scientifique, l'enrichissement est difficile à raconter. C'est-à-dire, le travail scientifique au cours de la dernière vingtaine d'années, 25 ou peut-être 30 ans, a radicalement changé. Dans le fait de pouvoir accéder à des sites fiables des universités, des collègues, avoir immédiatement la bonne bibliographie, c'est inouï comme ça change. Les suivis d'une thèse, un bon thésard, récupère, s'il sait le faire, mais ils savent le faire tous, en une matinée, le travail qui demandait des mois, des années, du point de vue bibliographique. Cette information disponible, certainement c'est pour tout le monde comme ça. Mais en science, où on sait où chercher, et on peut filtrer, donc on ne tombe pas dans des choses qui sont des bêtises, évidemment, on en trouve beaucoup. On sait le faire. Hein. Et c'est un changement radical, un enrichissement inouï du travail scientifique.
Vous, dans votre pratique, par exemple, vous le sentez à tout moment?
Absolument, absolument. On a là tout. Hein. On a là sous la main. Sans contacter ou en contactant un collègue n'importe où, on récupère tout ce qu'on veut en remontant d'un site à l'autre.
Mais est-ce que ça aide? Est-ce que ça aide?
Ah, oui, beaucoup, énormément. C'est vraiment, c'est sûr que je disais, la connaissance et la mémoire de l'homme mise à disposition de l'homme. Ça aide, mais attention, il y a aussi des contreparties. Le fait qu'il y ait ces réseaux permet, par exemple, d'inventer ce qui a été inventé il y a longtemps, mais maintenant ça se réalise massivement, la bibliométrie. C'est quoi la bibliométrie?
Qu'est-ce que c'est, la bibliométrie?
Ce sont des programmes qui compte le nombre des citations des articles. Et or, de plus en plus dans le monde, des bureaucrates et prétendent évaluer la recherche scientifique en appuyant des boutons qui donnent ces listes et associent à une recherche une quantité numérique inébranlable. La plupart de ces programmes, en plus, se sont bogués. Nous avons écrit un document sur ça qu'on peut télécharger de ma page web. Mais en tout cas, et ces listes, par exemple, l'impact factor, le nombre de citations des articles d'une revue dans les 2 ans qui suivent. Et ça, c'est la catastrophe pour la.
Pourquoi c'est la catastrophe? Parce qu'on peut considérer que c'est un critère d'évaluation qui fonctionne. Pourquoi? Au moins, il est quantifiable, au moins.
L'impact factor sur 2 ans qui suivent la publication dans une discipline comme les maths, où l'impact d'une chose importante et difficile demande des années, en tout cas. L'autre raison de fond, qui est sa moyenne, sa force à aller dans les secteurs qui tirent, dans les secteurs bien établis, où on sait que si on écrit quelque chose, on va être très cité. Il y a une espèce d'effet de champ moyen, comme disent les physiciens. C'est-à-dire quand un point dans un champ a trop de voisins et sont un réseau, il est obligé à être moyenné, à être comme les autres. Force tous à travailler, et tous.
Ceux qui veulent être cités, en tout cas.
Mais c'est très dangereux pour le jeune. Moi, récemment, j'ai connu un jeune bioinformaticien qui m'a dit « Je travaille sur telle protéine ». Non compliqué, puisque elle est partout, elle est dans 200 000 des titres. Et donc, quand on fait une petite chose sur le répliement de cette protéine, on est cité 1000 fois plus que n'importe quoi. Ça, c'est la catastrophe, puisque ça coupe, et ça rend très difficile l'originalité, l'exploration d'un parcours nouveau, des choses qui seront citées après beaucoup de temps. Par exemple, je me suis intéressé un peu au système dynamique des théorèmes de Poincaré de 1890. Sera, on peut citer, mais très peu, l'explosion des dynamiques, des systèmes dynamiques aura lieu dans les années 1960, 70. Mais c'est tout le temps comme ça, tout le temps, très souvent.
Ouais, c'est qu'il y a un décalage à la fois originaux. De parcours et de temps entre, effectivement.
Et ce qui est grave de la bibliométrie, c'est pas seulement l'évaluation a posteriori, que ça change la tête des jeunes a priori. Tu vois, des jeunes qui se dirigent exprès, non pas selon un questionnement qui émerge ou qui se pose, mais pour en considérant l'impact factor, les conséquences. Donc, il y a ce double problème.
Comme ça, c'est absolument passionnant de considérer que la bibliométrie, donc permise par une mise en réseau des revues et donc la possibilité de, en un clic par un programme, d'évaluer le nombre de citations, va modifier la manière même dont se fait la recherche. C'est absolument passionnant.
Tout
ça.
Et ça casse. On a écrit des documents sur ça, fort heureusement. En France, on a bien résisté à ces tendances, mais dans d'autres pays, ça devient grave. En France aussi, les bonnes universités américaines s'en foutent totalement. Elles font des jugements de contenu qui sont très difficiles à faire, et d'originalité aussi, qui est l'exact contraire, normalement. Mais vous savez, c'est un peu comme le problème des démocraties et contrôles que vous avez longuement discuté, par exemple la semaine dernière, sur la démocratie. Donc, il y a d'un côté les possibilités immenses qui sont données par le réseau, donc l'effet que n'importe qui peut faire sa page, donner des informations, et on regarde avec merveille l'Iranien, le Chinois, qui nous donne des informations grâce au réseau. De l'autre, il y a des possibilités de contrôle féroces, puisqu'on est tout content, on voit la page iranienne ou chinoise qui dit des choses, mais après une semaine, elle disparaît. Et le type, sûrement, a été arrêté, ou même torturé. Donc, il y a ces deux aspects qui sont toujours présents dans le réseau, qui sont une bataille permanente à faire, c'est-à-dire le défi formidable, c'est la croissance de l'information, de l'échange, donc les potentialités démocratiques qui sont là, dont nous tous nous profitons, pensez les débats aux États-Unis pour les élections, les rôles du web, permettent en même temps, dès qu'il y a une baisse de la démocratie, dès qu'il y a, pour des raisons politiques, une augmentation de l'état de police, permettent des formes de contrôle inimaginables. Donc, et même par votre téléphone portable, vous savez, même si vous l'éteignez, si on vous a placé un cheval de Troie qui l'allume à votre insu, on peut vous suivre partout.
Donc l'épistémologue que vous êtes est à la fois enthousiasmé par les nouveaux problèmes que ça pose, par la possibilité de partage d'une mémoire et d'une connaissance universelle, et en même temps effrayé par ce que ça induit dans les systèmes d'évaluation des citations et les questions démocratiques. C'est une sorte de partage.
Je souligne qu'il faut être vigilant, c'est un débat ouvert, il faut le savoir, il faut se battre. Et dans une démocratie, tout ça est possible, mais c'est certain d'être clair que c'est c'est une dynamique.
Giuseppe Longo, on va s'interrompre quelques instants, vous allez pouvoir reprendre votre souffle, pour aborder la deuxième grande question, disons la troisième grande question qui va nous occuper et dont vous vouliez parler, qui est celle de l'alliance, si je puis dire, des mathématiques et des réseaux pour modifier la finance mondiale. C'est un aspect tout à fait passionnant et dont on voit des retombées à n'importe quel instant. Il suffit d'ouvrir son journal ou écouter la radio. Vous allez nous expliquer du point de vue épistémologique et mathématique ce qui est en train de se jouer dans cette alliance-là. En attendant, je vais faire la lecture de la semaine.